Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée par Marguerite Caton, Corentin Mansois, Maïder Gérard et Margot Léridon, réalisée par Benjamin Hu et à la technique ce matin, Pierrick Monsigny. Dernier temps de notre série consacrée à ces lieux de savoir et de transmission que sont les universités. Chronique estudiantine, c'est la thématique de notre semaine, comme toujours en 4 épisodes. Lundi, Florian Delorme évoquait le système méritocratique nord-américain. Mardi, il était question des différents modèles de financement de l'enseignement supérieur en Europe. Et enfin, mercredi, nous parlions des soulèvements étudiants en Chine, 30 ans après la répression de Tiananmen. Mais aujourd'hui, place à la question des marchés privés de l'éducation en Afrique. De Lagos à Rabat, les universités privées sont-elles l'avenir? C'est notre sujet jusqu'à midi.
Je voudrais devenir ingénieur. Je suis élève au lycée technique à Gato-Benzé et je suis de la province. Et nous savons très bien qu'ici, il y a l'exploitation du manganèse, de l'uranium, etc. Maintenant, pour représenter la ville et le pays, j'aimerais bien apprendre ici.
Souvent, certains étudiants cherchent à changer d'horizon, mais ils n'ont pas forcément l'occasion de connaître certaines universités. Bon, c'est bien pour les universités de se faire connaître, mais aussi pour les étudiants de découvrir de nouvelles universités.
Être centre d'excellence, c'est des exigences. C'est être à des standards internationaux. Être centre d'excellence, c'est avoir des formations qui soient accréditées, non seulement au niveau national, au niveau régional, mais surtout au niveau international.
C'est un grand partenariat entre surtout les 9 gouvernements qui sont partis du projet, la Banque mondiale, et c'est géré au niveau de la région de l'Association des universités africaines qui font tout le suivi, évaluation, tout le renforcement des capacités des universités. On voit qu'il y a un grand dynamisme dans les universités. Et ça, c'est important pour nous de montrer qu'Afrique peut.
Ils étaient 5 millions d'étudiants en Afrique en 2014. D'après les chiffres de l'UNESCO, ils seront près de 10 millions à l'horizon 2020. La croissance démographique, mais surtout le développement économique, aiguise les appétits de savoir et de formation de la jeunesse africaine. Une jeunesse qui mise sur les études supérieures pour se construire un meilleur avenir. Un véritable défi pour les structures universitaires du continent qui peinent à accueillir cet afflux massif de nouveaux étudiants. Depuis quelques années déjà, accompagnés de la bénédiction des bailleurs de fonds, et des puissances du Nord, les États ont fait le pari d'ouvrir le secteur aux acteurs privés. À Dakar, au Sénégal, à Lagos, au Nigeria, partout sur le continent et dans les grandes villes surtout, fleurissent les business schools et les instituts d'études supérieures. C'est un véritable marché de l'éducation privée qui a émergé en Afrique et qui attire de nombreux investisseurs locaux ou internationaux. Sans compter les stratégies d'influence de certains États qui espèrent bien attirer à eux les futures élites africaines. Alors si le développement de l'éducation supérieure est une bonne nouvelle, les États africains et surtout les étudiants y trouveront-ils leur compte? Le coût élevé de ces écoles ne risque-t-il pas d'accentuer les inégalités déjà importantes sur le continent? Et enfin, quel avenir pour ces futurs diplômés alors que les débouchés restent rares pour les travailleurs qualifiés? Eh bien, deux invités pour répondre à toutes ces questions. Niandou Touré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, chercheur au CEPED, le Centre Population et Développement de l'Université Paris-Descartes, et vous êtes également enseignant à l'Université de Bamako. Je signale que vous participez à un projet de recherche, le projet ESPI, Enseignement Supérieur Privé et Inégalité, et qui consiste justement à observer la corrélation du développement du privé et de la montée des inégalités dans de nombreux pays à travers la planète, mais notamment au Mali, au Sénégal et en RDC. Et puis notre second invité est en duplex depuis les studios de la BBC à Norwich en Angleterre. Bonjour Yann Lebeau.
Bonjour.
Vous êtes vous sociologue et donc enseignant à l'université de Norwich. Merci beaucoup d'être avec nous et merci aux studios de la BBC pour vous accueillir pour ce duplex. Yann Lebeau, c'est vrai qu'il est toujours difficile de parler de l'Afrique dans sa globalité. On va essayer d'éviter de faire des généralités. Mais justement, première question, est-ce que le boom démographique et cette demande croissante de la jeunesse pour avoir accès à l'enseignement supérieur, est-ce que précisément c'est un phénomène commun à la plupart des pays africains?
C'est un phénomène commun, oui, à la plupart des pays africains, certainement, le boom démographique. Les trajectoires dont on va parler aujourd'hui, elles sont très diverses à travers le continent. Mais le boom démographique est là. La très forte demande d'enseignement supérieur dont vous parlez est un phénomène qui est déjà assez ancien sur le continent, et l'incapacité des systèmes à y répondre est aussi un phénomène relativement ancien. Mais ce qu'on va voir sans doute aujourd'hui, c'est que les configurations sont assez différentes à travers le continent, où, en raison de développement historique très divers pour les systèmes d'enseignement supérieur.
Quand vous dites ancien, précisément, il s'agit d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, à quand remonte vraiment ce changement significatif, selon vous, d'une arrivée massive d'étudiants, en tout cas de demandes d'études de la part de la jeunesse ?
Le résultat démographique dont vous parlez, assez brutal, résulte en grande partie de l'accroissement très significatif de l'accès à l'enseignement secondaire, de la généralisation de l'enseignement secondaire à travers le continent dans les années 80. Donc il y a effectivement un choc démographique à l'entrée des systèmes universitaires qui se produit à partir de la fin des années 80, dans un contexte où, un peu comme partout dans beaucoup de pays en développement, les ressources publiques allouées à l'enseignement supérieur sont sous une pression considérable, et donc ce phénomène de blocage à l'entrée des systèmes supérieurs publics est remarquable à partir du début des années 90 en particulier.
Il y a quelque temps, dans une émission sur RFI, c'était le 23 novembre 2018, c'était une émission spéciale à Dakar sur l'enseignement. Un jeune étudiant sénégalais expliquait, quand on est dans le public, pour avoir une place en amphi, pour un cours qui démarre à 8h, il ne faut pas arriver à 6h30, il faut arriver la veille. Est-ce que ça vous paraît, Niandou Touré, assez révélateur d'une situation propre au Sénégal, mais peut-être propre aussi à d'autres universités? Est-ce qu'à Bamako, par exemple, c'est aussi un phénomène que vous observez dans le public?
Oui, cette tendance correspond à un constat qui pourrait être partagé pour beaucoup de pays d'Afrique au sud du Sahara, mais même du Maghreb. On notait, par exemple, dans un ouvrage dirigé par Sylvie Mazella il y a quelques années, qu'en 2009, chaque année, 250 000 nouveaux étudiants entraient dans le supérieur en Algérie, 100 000 au Maroc. Et pour le cas du Mali, on est autour de 25 000 nouveaux étudiants dans le supérieur, 25 000 nouveaux sortants de l'enseignement secondaire, pour rejoindre un groupe qui se situe autour de 100 000 étudiants. Donc si on augmente 25 000 chaque année sur 100 000, la pression est encore très importante. Et des situations comme celle que décrit cet étudiant de Dakar, résonne beaucoup dans l'oreille de l'enseignant que je suis à l'université de Bamako, où nous avons des amphis qui ne peuvent pas accueillir des étudiants, un nombre supérieur à 1000 étudiants, mais nous avons pourtant dans les facultés en particulier de droit et de sciences sociales des effectifs qui dépassent quelquefois les 6000, les 10000 par promotion. Donc on se retrouve avec beaucoup d'étudiants qui sont complètement hors des amphis, derrière les fenêtres, qui essaient de suivre comme ils le peuvent. La situation est très tendue, en effet, au Mali au moins et au Sénégal.
Si on va un peu plus loin que la question du boom démographique, comment est-ce qu'on explique cet engorgement ? Est-ce que les États n'ont tout simplement pas anticipé cette croissance démographique et cette demande d'accès aux études ? Est-ce qu'ils ont été dépassés par le phénomène ? Ou bien est-ce qu'ils en étaient conscients, mais l'éducation supérieure n'était tout simplement pas une priorité ces dernières années ?
Ça l'est devenu seulement depuis, comme l'a noté Yann Lebeau, ça l'est devenu à partir des années 90. Quand on regarde quand se créent les premiers établissements d'enseignement supérieur privé, en fait, au Maroc, que je connais un peu, puis au Mali, c'est toujours la fin des années 80, et les législations nationales, les textes qui doivent encadrer la création d'établissements supérieurs privés, qui ont pour objectif au départ de combler le vide laissé par l'établissement public qui ne peuvent pas répondre à la demande grandissante. Ces législations-là n'ont pas eu l'effet escompté. Je pense que les gouvernements, je peux parler très clair, précisément du Mali, le gouvernement a bien envisagé quelque chose en votant une loi en 94 qui disait clairement dans le texte que le privé devait être la solution à l'augmentation trop rapide des effectifs dans le supérieur, mais le privé n'a pas pu occuper cette place parce que l'enseignement supérieur privé est conditionné, son accès est conditionné à des frais de scolarité qui sont très élevés et qui ne sont pas accessibles à tout le monde, et que cela change complètement la donne par rapport à une tradition d'enseignement public, d'un service public gratuit, dans le cadre duquel les étudiants sont en plus boursiers. Ils ont bénéficié de bourses d'études dont ils ont besoin pour accéder au supérieur. Donc le public n'a pas pu apporter la solution et le privé a proposé quelque chose qui ne s'adresse pas à toutes les couches de la société.
De ce que vous dites, on entend même que les autorités ont sciemment fait le choix de dire le privé sera la solution. Yann Lebeau, Niandou Tounri nous parle du Mali. Est-ce que c'est aussi un phénomène qu'on retrouve dans d'autres pays que vous connaissez, où les autorités disent, on est bien conscience qu'il va y avoir un problème, que nous, universités publiques sont dépassées, faisons le choix du privé.
Oui, c'est un problème. C'est une question qu'on retrouve à travers le continent, particulièrement en Afrique subsaharienne, y compris dans l'Afrique anglophone, sur une assez grande échelle. Il faut peut-être rappeler ici que la décision d'ouvrir les systèmes universitaires au marché privé dans les années... en particulier à partir des années 90, comme le disait Niamdou, cette décision-là, c'est une décision qui est très fortement stimulée par les bailleurs de fonds internationaux, et en particulier par la Banque mondiale. C'est une des conditionnalités des prêts qui sont alloués aux pays d'Afrique subsaharienne dans les années 80, dans le cadre des programmes d'ajustement structurel. Donc il y a une très très forte pression internationale des bailleurs en faveur de cette ouverture au marché privé, d'une part, et aussi en faveur d'une introduction de coûts partagés à l'intérieur des systèmes d'enseignement supérieur public.
Pourquoi cette pression des bailleurs internationaux et cette préférence pour le privé?
D'abord, c'est une position idéologique des bailleurs de fonds internationaux et de la Banque mondiale. C'est basé sur un raisonnement qui veut que, en particulier, ouvrir au marché privé réduit les coûts, augmente la concurrence et augmente la qualité. C'est un point de vue. De manière plus concrète, c'est aussi un constat effectué par la Banque mondiale et les bailleurs de fonds à la fin des années 80 que les politiques de soutien au système d'enseignement supérieur public des pays en développement de la période post-coloniale n'avait pas donné lieu à une ouverture de ces systèmes générales aux populations, et que donc ces systèmes restaient fermement élitistes, et que donc la manière peut-être d'ouvrir tout en réduisant les coûts était d'autoriser l'introduction d'institutions privées.
Est-ce que la qualité de l'enseignement privé est au rendez-vous, Yann Lebeau?
Alors, d'après les rapports dont on dispose, comparatifs par exemple sur le continent africain, il convient d'être très prudent sur ce qu'on appelle institutions privées, etc. Vous avez parmi ces institutions privées, vous avez un petit nombre d'universités qui offrent des cursus larges. Certaines d'entre elles sont maintenant établies depuis 25-30 ans et se situent dans leur pays, parmi les bonnes universités. Et vous avez aussi tout un énorme champ d'instituts supérieurs, plutôt que d'universités, qui opèrent au niveau des formations courtes, si vous voulez, post-secondaires. Parmi ces instituts, il est extrêmement difficile de produire une évaluation de la qualité, puisqu'on dispose de très très peu de données sur les destinations de carrière, par exemple, de leurs sortants ou même sur leur curriculum.
Alors, la stratégie des acteurs privés, je vous propose, pour en parler, de vous faire entendre un court extrait de l'un des leaders mondiaux de l'éducation privée dans le monde, et en particulier en Afrique. Il s'agit du groupe Galileo, un groupe qui a racheté récemment, par exemple, l'Institut supérieur de management au Sénégal. On écoute son président, Marc-François Mignot-Mahon.
Les études supérieures, elles ont un coût. Et donc, qu'elles soient financées par le public, donc par l'impôt, ou qu'elle soit financée par les familles qui payent en direct dans le privé, ce coût, il doit être payé quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de qualité sans coût en niveau éducatif. Moi, je milite pour un statut d'intérêt général à profit limité. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des investisseurs qui viennent, notamment sur le continent africain, et que la part de valeur qui soit captée par les investisseurs ne soit pas trop importante. Je prends un exemple très simple. Vous mettez 100 000 francs CFA dans un acte éducatif, les gens doivent savoir que seulement 10% peuvent remonter à l'actionnaire qui a pris le risque de créer le campus.
Voilà, Marc-François Mignot-Mahon, le président du groupe Galileo, qui plaide ici pour un statut d'intérêt général. Bon, mais l'objectif d'un groupe privé qui, par ailleurs, est financé par des fonds d'investissement et des industriels, c'est quand même de faire des profits, Niandou Touré.
Oui, c'est bien le cas. Galileo, L'Oréal est entré au capital de Galileo en 2018. Et parmi les établissements du réseau Galileo, il y a le cours Florent, mais aussi beaucoup de l'école de Paris Business School, qui était l'ancienne école supérieure de gestion. Donc la logique de profit et les logiques managériales du privé ont complètement débordé ou se sont installées dans le champ de l'éducation comme service. En fait, en complément de ce que disait Yann Lebeau sur les injonctions internationales de la Banque mondiale et du FMI, je souhaitais ajouter que il y a un moment important de ce shift, de ce glissement vers la privatisation, et l'année 2004, quand, dans le cadre de l'OMC, on signe un accord général sur le commerce et les services à Marrakech, signé par 130 pays, on dit clairement à ce moment-là que les services d'éducation ne doivent plus relever du domaine exclusif de la gestion étatique. Il faut les ouvrir et il faut baisser les contraintes afin de permettre que ce domaine-là soit géré désormais par des entrepreneurs. Donc la logique de Galileo et d'autres groupes et des investisseurs locaux au Mali, tout comme des internationaux, elle est quand même aussi économique. Voilà. La dimension économique de l'investissement dans l'éducation est quand même importante, il me paraît.
Comment est-ce que vous voyez, vous, Yann Lebeau, la logique d'un groupe privé tel que Galileo? Comment un groupe comme celui-ci bien trouve son intérêt à investir massivement dans l'éducation privée, notamment en Afrique? Quelle est sa logique?
Alors, je ne sais pas s'ils investissent massivement dans l'enseignement supérieur en Afrique, mais ils investissent dans des domaines très stratégiques de cet enseignement supérieur en Afrique. Et comme vous le disiez en introduction de l'émission, ce genre d'établissements sont en général visent des marchés urbains, s'intéressent à la demande éducative des nouvelles classes moyennes et classes supérieures. Donc il y a un marché qui est quand même très ciblé, très spécifique pour ces organisations internationales et pour ces initiatives transnationales. Ce qui, évidemment, ne représente qu'une part, finalement, assez petite de ce qu'est la réalité du développement de l'enseignement supérieur privé dans les pays d'Afrique subsaharienne.
Oui, c'est-à-dire que ce ne sont pas ce type d'initiatives ou de groupes qui vont permettre d'absorber l'ensemble de la demande, c'est ça qu'on comprend, notamment à cause du coût d'entrée pour ces universités, enfin, pour ces instituts.
Oui, en grande partie. Bon, ces instituts, ils ont un coût. Ce coût, comme l'interviewé le rappelait, il doit être porté par quelqu'un. Si ces instituts sont soutenus par des initiatives publiques de manière à réduire les coûts d'entrée, dans ces conditions-là, ils permettent de répondre à une demande du marché sans forcément créer beaucoup plus d'inégalités. Si ce n'est pas le cas, et souvent ce n'est pas le cas parce que les États ont très peu de moyens de supporter ces initiatives privées, alors ils contribuent eux-mêmes à des nouvelles formes d'inégalités à travers le développement d'initiatives privées.
Alors là, on parle d'un grand groupe international qui a des stratégies transnationales, mais je crois que parmi les nombreux acteurs privés qui investissent le marché de l'éducation, il y a aussi des acteurs locaux, des acteurs africains, notamment au Mali, Niandou Touré.
Oui, tout à fait. Et ces acteurs locaux sont majoritaires, il faut le rappeler. Donc dans le contexte du Mali, où nous avons commencé des terrains de recherche sur les établissements supérieurs privés, nous observons que plus de 90% des promoteurs d'établissements sont bien des nationaux, des acteurs locaux qui ne sont pas uniquement entrepreneurs de l'éducation, ils sont entrepreneurs dans d'autres domaines. Et donc l'éducation ou les groupes scolaires qu'ils créent et dont ils font la promotion font partie d'un plus grand système économique d'investissement. Donc au Mali, il est important de dire que pour l'ensemble des établissements que nous avons identifiés et auprès desquels nous prévoyons de faire des monographies plus complètes dans les prochains mois en faisant des entrées par les promoteurs, les directeurs et les étudiants, il n'y a que un seul, en particulier Supmanagement, qui fait partie d'un immense groupe international. Il y a des antennes de Supmanagement au Maroc, mais aussi dans tous les pays voisins du Mali. Ils font partie d'un plus grand réseau avec des établissements supérieurs privés, espagnols, canadiens et américains notamment. Et dans le cadre de ces établissements-là, il est possible pour les étudiants au Mali, tout comme au Maroc, d'accéder à des formations et à des diplômes des établissements partenaires au Canada, aux États-Unis ou dans d'autres pays. Donc, sur la source des fonds, sur l'origine des fonds de ces établissements, au Mali comme au Sénégal, les locaux sont majoritaires. Ce qui est important, peut-être qu'il faut ajouter sur ISM, c'est que c'est le premier établissement d'enseignement supérieur privé au Sénégal et qu'il a une importance particulière, presque symbolique. Donc l'arrivée de Galileo peut être le point de départ de quelque chose. Mais sur l'ensemble des 50 établissements de Galileo à travers le monde, à ma connaissance, un seul est en Afrique. Donc oui. On n'est pas dans l'ordre de la grande massification.
Point de départ d'une ambition, oui. Tout de même. Toujours ce président du groupe, dans une interview aux Échos, expliquait en vouloir devenir le numéro un de l'enseignement privé en Afrique. Donc il y a aussi derrière une ambition. On parlait il y a quelques instants de la question de la qualité de l'enseignement. Qui aujourd'hui contrôle le développement de ce business des écoles privées? Est-ce qu'il y a des systèmes de certification pour certifier aux futurs étudiants et qu'ils recevront un enseignement et des diplômes de qualité?
Cette question est très très importante et pertinente, madame. C'est parce que on observe quelque chose dans le cadre de notre étude, c'est le relatif non-encadrement législatif de l'explosion de ces effectifs-là. Alors même que j'ai parlé d'un texte de 94 au Mali, la seule nouvelle adaptation a été ajoutée en 2012. Et ce texte dont je parle, il encadre l'éducation privée en général et il n'est pas spécifique à l'enseignement supérieur privé. En revanche, depuis 2 ans, en 2016 a été créée au Mali une agence nationale de régulation de la qualité et il y a une tendance qui émane ou qui est insufflée par le CAMES, le Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur, une grande association à l'échelle du continent qui encadre l'enseignement supérieur et qui invite les États membres à mettre en place des agences de régulation nationale afin de contrôler la qualité des établissements privés. Pour le moment, cette agence au Mali, elle n'est pas vraiment opérationnelle et on pourrait dire que les établissements privés naissent et se multiplient très rapidement, tout aussi vite qu'ils meurent aussi parce que voilà, il y en a beaucoup. Pour les chiffres, il y a 128 au Mali, dont 117 qui ont obtenu une autorisation d'ouverture, de création, et seulement 70 qui ont des habilitations pour certaines formations. Et les proportions d'habilitation, de reconnaissance formelle donc de ces diplômes-là, vont entre 25 et 75%. Donc il s'agit d'un environnement qui est encore presque sauvage et pas suffisamment encadré.
Un marché hyper compétitif, on le voit aux chiffres que vous donnez. Il faut peut-être rappeler aussi, Yann Lebeau, on a parlé d'un enseignement public qui était actuellement dépassé par l'engorgement, l'afflux d'étudiants, mais dans beaucoup de pays, certaines universités publiques conservent une attractivité, une réputation d'excellence et donc sont encore très très demandées par la population.
Dans la plupart des pays. Et ça, c'est une réalité tous les pays du Sud, de tous les pays en développement. L'expansion du secteur privé, considérable, on l'a dit, en Afrique, mais il faut rappeler que les données sont beaucoup plus impressionnantes, par exemple en Amérique latine, dans des pays comme le Brésil. Mais dans tous ces contextes, les universités publiques, d'une manière générale, restent les universités les plus prisées, en dehors de marchés très spécifiques, par exemple d'écoles de commerce, dont on a parlé un peu tout à l'heure avec l'exemple que vous avez donné. Mais d'une manière générale, ce sont les universités publiques qui restent les références en termes de qualité de l'enseignement supérieur dans pratiquement tous ces pays.
Et d'ailleurs, on voit un phénomène intéressant, c'est que certains étudiants s'inscrivent à la fois dans le public et dans le privé. L'objectif, c'est quoi? D'avoir à la fois la reconnaissance du diplôme du public et puis d'avoir quand même les moyens du privé?
Oui, certainement, et une reconnaissance peut-être après sur le marché du travail de formation plus pratique, peut-être pas uniquement académique, mais certainement, ce qui est intéressant de rappeler ici, c'est que au niveau, par exemple, du profil social des étudiants qu'on trouve dans l'enseignement supérieur en Afrique subsaharienne, dans la plupart des pays, ce sont les étudiants des milieux sociaux les plus favorisés qui continuent à occuper les places dans les universités publiques, dont l'accès est bien souvent gratuit. Donc on a ce paradoxe qui montre encore une fois la valeur symbolique des diplômes des universités publiques dans la plupart des pays.
On n'a pas parlé des filières qui sont aujourd'hui les plus demandées par les étudiants africains. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de business schools qui se développent. Comment est-ce qu'on peut mesurer les filières qui sont aujourd'hui les plus attractives pour les étudiants? Est-ce que c'est les sciences de l'entreprise qui le sont?
Oui, au Mali, nous avons pu accéder à un répertoire des établissements avec l'ensemble des formations qui sont proposées. Et ce répertoire, il confirme ce que nous percevons tous d'emblée avant de commencer des études, c'est que les sciences de l'entreprise, donc le management, l'audit, la comptabilité, mais aussi les sciences et technologies, en particulier pour l'informatique et les biotechnologies, sont très demandées et très enseignées dans ces établissements privés-là. Et ça correspond à quelque chose que j'avais déjà observé pour le développement de l'enseignement supérieur privé au Maroc, où ce sont ces disciplines-là en particulier qui sont enseignées. Les disciplines de sciences sociales, par exemple, dans notre répertoire, il n'y a pas de licence en sociologie sur l'ensemble des établissements que nous avons répertoriés. Donc il s'agit d'enseignements très orientés vers les sciences de l'entreprise, qui ont pour fonction de faciliter l'insertion professionnelle des diplômés. Et étant donné que ces établissements privés s'inscrivent dans des réseaux avec des connexions avec des entreprises, ils facilitent l'accès à des stages et pour beaucoup, comme ils peuvent l'espérer, à un emploi à l'issue de leurs études.
Et pour ceux qui veulent étudier des matières peut-être moins rentables, les sciences humaines, les sciences sociales, est-ce qu'il y a aussi des investisseurs pour ces filières-là?
Dans le privé?
Oui.
Alors, actuellement, pas encore. Pour le moment, pour les sciences humaines et sociales, on peut accéder à des études. Donc, je disais qu'il n'y avait pas de licence de sociologie. Il y a des études en sciences politiques avec des orientations très aux relations internationales et donc qui fait encore penser à une logique de rentabilité avec un rôle, un poste dans la diplomatie. Peut-être qu'un développement des sciences humaines et sociales viendra bientôt, mais au Mali, pour le moment, on n'a pas une telle offre.
Yann Lebeau, sur ces questions de filière?
Oui, tout à fait d'accord avec ce que disait Nyandou. Ça se reflète aussi dans les pays d'Afrique de l'Est, comme le Kenya, par exemple. Il faut peut-être quand même rappeler ici qu'il existe un enseignement supérieur dans le domaine non lucratif avec des universités et que c'est souvent dans ces universités, parfois plus anciennes, par exemple, universités créées par des organisations religieuses ou autres, qu'on va trouver un champ de matière plus ouvert que dans les écoles à formation courte du domaine plus marchand auquel faisait référence Nyandou à l'instant.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Mon projet aussi est de contribuer à renforcer nos établissements ici en lien et en partenariat avec vous, mais de renforcer vos établissements et vos cursus universitaires. C'est de multiplier les partenariats, les échanges, les formations croisées, les doubles diplômes qui répondront à vos attentes et qui nous permettront mutuellement de mieux apprendre l'un de l'autre. Moi, je ne veux pas qu'un jeune Burkinabé, dès qu'il se dit « je veux faire des études », n'ait qu'un but, aller faire des études en France. Non, je veux qu'il puisse mener toutes ses études au Burkina s'il le veut. Nous devons multiplier les cours en ligne, les partenariats, les doubles diplômes qui permettra ici à Ouagadougou d'avoir un diplôme d'une université française, parce qu'il y aura un partenariat. Et que s'il veut et doit aller en France, c'est pour faire une formation spécifique ou c'est parce qu'il l'a choisi, pas parce qu'il y est contraint.
Le président Emmanuel Macron, dans un discours adressé à la jeunesse burkinabé à Ouagadougou, c'était le 28 novembre 2017, une coopération renforcée, des partenariats, des doubles diplômes, mais si possible en Afrique, hein, le message est assez clair. Pourquoi est-ce que le président français semble vouloir freiner la mobilité étudiante africaine, Nyandou Touré?
Parce que je crois que cette déclaration, elle est dans la même dans le même esprit peut-être que la réforme entreprise depuis novembre dernier, le programme Bienvenue en France, dont en fait qui est perçu quand même par beaucoup d'étudiants extracommunautaires et en particulier africains, continent d'où proviennent la majorité des étudiants étrangers en France, c'est perçu comme une volonté d'accueillir moins d'étudiants.
La réforme à laquelle vous faites allusion, c'est l'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants étrangers non communautaires en France.
C'est bien ça. On passe de 270 à peu près euros par an en licence à 2770 et en master à 3770. Donc ça va fortement décourager certaines populations. Et l'ambition affichée par le Premier ministre dans la déclaration de cette initiative est bien d'accueillir davantage d'étudiants du continent asiatique et d'avoir moins d'étudiants des pays de départ traditionnel. Donc, il y a une volonté, on pourrait, dans la déclaration du président aussi, voir la volonté de renforcer l'institution de départ, parce que la vérité est que, historiquement, pendant longtemps, les étudiants africains se formaient en France, mais pas aussi parce qu'il n'y avait pas de formation de qualité disponible. Et c'est encore le cas dans beaucoup de disciplines où il n'est pas possible de préparer un doctorat, notamment au Mali, actuellement.
Yann Lebeau, est-ce que vous avez l'impression que les autorités françaises essayent de limiter la venue d'étudiants africains en France et est-ce qu'ils essayent aussi de renforcer les... Enfin, est-ce qu'on peut y voir un côté positif au sens, comme le disait Niandou Touré, de renforcer les institutions universitaires africaines ?
Je ne suis pas sûr que l'objectif soit de limiter le nombre d'étudiants africains venant en France. D'abord parce qu'on assiste quand même à une baisse assez régulière de la proportion d'étudiants d'Afrique subsaharienne dans le système universitaire français depuis déjà plusieurs années, pour des raisons qu'on a déjà commencé à discuter, à savoir qu'il y a un développement de ces formations sur le continent africain. Donc, et puis aussi... parce que les étudiants africains intéressés à la mobilité internationale s'orientent vers un beaucoup plus grand nombre de pays aujourd'hui que ce n'était le cas dans les années 80 ou 90. Donc, je crois que c'est aussi un discours de prudence et de réorientation de la stratégie française qu'on vient d'entendre dans un contexte de multiplication de l'offre, dans un contexte où les collaborations transnationales des universités d'Afrique francophone se font sur un marché plus ouvert et par conséquent la France réalise qu'il est aussi temps de moderniser peut-être la relation universitaire qui est établie notamment avec les anciennes colonies. Donc je pense qu'il y a ce discours d'une part. Sur l'introduction des frais de scolarité, il y a eu un débat intéressant mardi dans votre émission qui montrait que, il est certain que la France est intéressée à une réorientation du profil de ses étudiants d'Afrique subsaharienne. Donc ça ne vise pas particulièrement les étudiants d'Afrique subsaharienne, mais l'intérêt de voir peut-être les nouvelles classes urbaines aisées s'orienter vers des formations payantes est nécessairement une donnée attractive pour le système universitaire français.
Et d'ailleurs, on voit un nouveau phénomène qui est celui du développement de ce qu'on pourrait appeler des franchises de la part d'universités alors françaises, mais aussi européennes, américaines, en Afrique. Donc là, l'idée, c'est, ça se passe sur le territoire africain. Par exemple, Paris Dauphine en Tunisie, je crois. La Sorbonne aussi, à Abu Dhabi. Alors, on sort un petit peu du continent. Mais quelle est la stratégie qu'il y a derrière? Dans quel but ces universités viennent ouvrir des franchises sur place? Est-ce que, comme vous venez de l'évoquer, il s'agit de capter l'élite la future élite africaine?
Oui, assez clairement. Alors, les franchises et les collaborations transnationales, il y a tout un tas de cadres juridiques différents qui s'opèrent. Ici, il y a les branches de campus européens qui se développent dans les pays du Sud. Il y a les formes de collaboration, les franchises par exemple, qui s'appuient sur des institutions locales qui délivrent des diplômes des pays de départ. Donc, il y a... pour l'instant, le continent africain n'est pas véritablement une destination de choix pour ces modèles de collaboration internationale. Les destinations de choix, on va les trouver beaucoup plus en Asie et au Moyen-Orient. Vous avez parlé d'Abu Dhabi, par exemple. Les Émirats ont aujourd'hui pratiquement autant de franchises et de branches de campus internationaux sur leur territoire que la Chine. Pour l'ensemble du continent africain, les chiffres sont d'environ 30 ou 40 actuellement branches de campus internationaux, ce qui est quand même relativement faible. Donc on parle d'un phénomène qui émerge et qui, comme vous le dites, s'adresse particulièrement aux populations aisées et aux élites universitaires.
Vous le dites, c'est un phénomène qui émerge, qui existe néanmoins dans Diou-Touré. Est-ce que vous avez aussi l'impression que ces partenariats dans l'éducation permettent d'exercer, on va employer les grands mots, une forme d'influence, une forme de soft power pour certains pays depuis l'extérieur?
Assurément, je pense que la France a des campus délocalisés, enfin des formations dans beaucoup de pays, dans beaucoup de capitales africaines. J'ai devant moi des informations sur des classes préparatoires aux grandes écoles à Yaoundé, à Ouagadougou, donc Ouagadougou au Burkina, mais aussi donc au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin, en Algérie, au Maroc. Et en Égypte, on a carrément créé une université française du Caire, et au Vietnam, donc une université des sciences et techniques. Donc tout ça participe quand même de la promotion de l'enseignement supérieur français, d'un système de pensée et d'une langue aussi. Donc il s'agit effectivement d'un software qui fonctionne à merveille. Et ce software-là, il s'opère aussi de plusieurs autres formes. Comme l'a dit Yann Lebeau, non seulement il y a des établissements qui correspondent à des campus externalisés, il y a carrément des universités créées dans le cadre de coopération, mais il y a aussi le fait que même dans les établissements publics, la coopération française reste la plus visible, au moins pour ce que j'en sais à Bamako. Nous avons mis en place un département de sciences politiques il y a quelques années avec l'accompagnement intégral dans toutes les phases de l'Université de Bordeaux, et le projet de création du premier centre de recherche en sciences humaines et sociales malien, proprement malien, sera monté avec l'aide de cette même université. Donc l'influence française, elle reste importante dans le domaine de l'enseignement supérieur privé comme public en Afrique.
Et est-ce qu'elle reste attractive pour les étudiants africains qui peuvent de plus en plus, Yann Lebeau le rappelait, avoir le choix aussi d'autres partenariats, d'autres universités, d'autres pays? Ils sont nombreux à proposer des offres, et d'ailleurs au sein du continent africain lui-même. Je crois que l'Afrique du Sud, le Maroc notamment, se positionne sur ce marché.
Oui. Et donc au Maroc, par exemple, les étudiants maliens sont aujourd'hui plus nombreux qu'ils ne le sont en France. Donc il y a bien des mutations importantes qui sont en cours. Et pour les étudiants les plus aisés, les plus riches, qu'on souhaite attirer peut-être avec la hausse des frais de scolarité, ils vont pour le moment en Amérique du Nord, bien plus souvent au Canada et aux États-Unis. Et beaucoup d'autres partenaires, effectivement, entrent dans le jeu avec la Malaisie qui accueille les étudiants maliens, mais aussi la Chine qui a proposé 5000 bourses au Mali il y a quelques années sur une période plutôt courte. Et donc les destinations se multiplient et la France, le rôle de la France sans doute diminue par effet d'augmentation des autres pôles d'influence. Mais il me semble que la France conserve une place quand même centrale en raison de la langue notamment qu'on en partage. Donc c'est les pays d'Afrique avec la France.
Yann Lebeau, est-ce que vous observez aussi une sorte de compétition internationale et à l'échelle même du continent africain pour bien attirer à soi les meilleurs talents dans un objectif de peut-être de les faire rester dans le pays et puis qu'ils contribuent ensuite au développement du pays qui les a formés?
Oui, ce qui est intéressant dans l'extrait du discours du président Macron que vous avez passé montre que dans le cas de la France, on parle d'une stratégie nationale, d'une stratégie d'État, si vous voulez. Et Nyandou le rappelait à l'instant, il s'agit de coopération. Sur le reste du continent et venant d'universités de pays anglo-saxons ou même d'autres pays européens, les collaborations et la compétition dont vous parlez sont beaucoup plus le fait de stratégie institutionnelle que de stratégie d'État. Donc, par exemple, dans le cas de la Grande-Bretagne, les universités publiques s'intéresse aux franchises et à toutes les formes de collaboration transnationale comme manière d'attirer à elles, par exemple, sur leur formation de troisième cycle, des étudiants qui viendront donc payer des frais de scolarité relativement élevés en Angleterre pour pouvoir finir leur doctorat et pour pouvoir former des chercheurs qui ensuite soit retourneront dans leur pays et resteront des collaborateurs proches ou resteront en Grande-Bretagne comme chercheurs. Donc des stratégies institutionnelles beaucoup plus que des stratégies d'État. Vous avez des organisations telles que le British Council qui soutiennent ces collaborations, qui soutiennent ces initiatives, mais elles sont au départ des stratégies institutionnelles. Et je pense que c'est une grosse différence avec le contexte français et la relation entre la France et les pays d'Afrique francophone que Nyandu Touré décrivait à l'instant.
Et puis, il y a aussi cette question fondamentale des débouchés qu'un pays peut être capable d'offrir ensuite à ses jeunes diplômés, parce que c'est une chose de pouvoir offrir une formation de qualité et d'investir dans cette formation, c'en est une autre ensuite eh bien de retenir les étudiants, Nyandu Touré.
Oui, c'est peut-être oui, la question, une question, celle de l'insertion sur le marché du travail des diplômés, elle devait être mise en relation depuis le début avec le développement de cet enseignement supérieur. Comme le disait Yann Lebeau au départ, les années 80, c'est un tournant parce que ce que disent les institutions internationales, c'est aussi que depuis 20 ans, tous les diplômés du supérieur, dans le cadre des politiques planifiées, des grandes planifications nationales, tous les diplômés étaient directement fonctionnaires. Il n'était plus possible de continuer. Et c'est aussi parce que le marché de l'emploi va être transformé que le marché de l'éducation le doit être aussi. Et aujourd'hui, c'est de la même façon qu'on n'a pas de place dans les établissements que le marché de l'emploi aussi n'a pas suffisamment de place pour ces diplômés. Et peut-être que je voulais ajouter que pour les classes préparatoires aux grandes écoles françaises installées dans différentes capitales, elles ont pour but quand même de choisir parmi les meilleurs étudiants ceux qui sont éligibles à la poursuite de leur formation dans les écoles d'ingénieurs françaises.
On est en votre compagnie, Nyandu Touré et Yann Lebeau. Tout de suite, direction, focus sur un pays à l'influence montante en Afrique, la Turquie.
Les relations de la Turquie avec le continent africain vont jusqu'au Xe siècle. Et heureusement, dans cette histoire millénaire, il n'y a pas une seule tache négative. Il n'y a pas non plus dans ce passé des anecdotes telles que l'île de Gore, où on a vu le massacre et l'exploitation au plus haut niveau. Nous croyons que le prochain siècle sera le siècle de l'Afrique.
La Turquie ne s'en cache pas, elle nourrit d'ambitieux projets de coopération, pour ne pas dire d'influence, sur le continent africain. Une stratégie qui passe notamment par l'éducation. Alors là, il ne s'agit pas des universités directement, mais des lycées qui jouent un rôle déterminant dans l'accès à l'enseignement supérieur, on l'a dit, extrêmement sélectif. Bonjour Gabriel Anget. Bonjour, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, oui, je vous entends bien.
Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales à l'Université Paris-Dauphine. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler, il existe de nombreuses écoles turques en Afrique, mais peut-être nous rappeler dans quel pays principalement elles se situent et surtout quel public elles visent ?
Oui, alors les écoles turques, il faut d'abord que je précise que ce ne sont pas des écoles, pour la plupart, elles ne sont pas des écoles étatique de l'État turc. C'était des écoles qui étaient pour la plupart dirigées par des fidèles du mouvement de Fethullah Gülen, qui est un mouvement religieux turc. Elles étaient du coup présentes en Afrique subsaharienne un petit peu partout, de manière assez équilibrée. Elles étaient présentes avant 2016 dans environ une quarantaine de pays d'Afrique subsaharienne. Et en total, j'avais calculé environ 120 écoles étaient établies sur le sous-continent, mais c'était évidemment, ce sont des écoles donc privées, qui étaient établies par un acteur religieux privé venant de Turquie, et comme vous le savez, depuis quelques années, les tensions entre le gouvernement turc d'Erdogan et le mouvement religieux de Fethullah Gülen ont augmenté dramatiquement, et donc les écoles sont menacées dans certains pays d'Afrique subsaharienne aussi.
Ah oui, alors un acteur privé effectivement, mais qui avant la crise entre donc le réseau Gülen et l'État turc, eh bien servait tout de même de vitrine pour l'État turc, parce que sur place elles étaient considérées avant tout comme des écoles turques.
Ah oui, totalement. En fait, il y avait un échange de bons procédés entre la diplomatie turque et le réseau Gulen qui bénéficiaient mutuellement de leur reconnaissance, Et en fait, quand vous entriez dans une école, disons par exemple à Dakar au Sénégal, les écoles, elles arboraient, il y avait deux drapeaux qui flottaient, hein, le drapeau sénégalais et le drapeau turc. Les écoles africaines du mouvement Gulen étaient pour la plupart inaugurées, si possible, par un officiel turc, hein, donc Abdullah Gül, ancien président de la République turque, Erdogan à l'époque où il était Premier ministre et non pas président de la République de Turquie, lui-même hein, a inauguré, ils ont inauguré des écoles et les photos par exemple de ces inaugurations étaient présentées dans les halls des écoles lorsqu'on y entrait, ce qui faisait qu'en fait il y avait une voilà, vraiment des écoles qui sont connues par les populations locales comme des écoles turques, hein, encore aujourd'hui on les appelle, elles sont appelées écoles turques, bien qu'elle n'ait aucun statut officiel d'école turque, et que les hommes politiques, les officiels locaux africains, eux-mêmes, hein, voyaient bien ces écoles comme un pont pour l'approfondissement des relations entre la Turquie et le pays d'Afrique en question.
Et de l'autre côté, en Afrique, comment est-ce que ces écoles étaient perçues par la population africaine, par les parents d'élèves ?
Vous voulez dire sur le plan de la... Bah, c'était des écoles qui étaient perçues comme des écoles turques, comme des écoles tenues par des Turcs, des
Je voulais dire, pardon, sur le plan de... Quel intérêt, en fait, quel intérêt pour des parents d'élèves d'y inscrire leurs enfants ?
D'accord. Bah, c'était des écoles qui étaient, en fait, des écoles qui préparaient aux examens de fin d'études. C'était des machines à concours, en fait. Hein. C'était pour ça qu'elles étaient particulièrement réputées. Donc, justement, elles mettaient en avant un taux de réussite aux examens de fin des études du secondaire très important. Elles mettaient en avant un placement dans les études supérieures très significatif, hein, puisque la grande majorité des élèves qui étudient dans cette école accédaient à l'université. Donc, que ce soit les universités publiques du pays, pour les meilleurs d'entre eux, les universités privées du pays, mais encore une fois, c'est conditionné quand même par les notes obtenues aux examens. Surtout, hein, ce qui était mis en avant, c'était la possibilité pour ces élèves de partir à l'étranger, hein, puisque voilà, une forte part, en général c'était à peu près un tiers par exemple au Sénégal, partait ensuite étudier dans le reste du monde, et d'ailleurs beaucoup en Turquie, hein, par le biais des mouvements Gulen, qui canalisaient des élèves qui allaient en Turquie poursuivre leurs études universitaires.
Vous l'avez rappelé, Gabriel Anget, depuis le coup d'État manqué de 2014, les réseaux gulenistes sont dans le collimateur du pouvoir. Il y a d'ailleurs eu une reprise en main assez musclée, hein, de ces écoles par l'État turc. Mais est-ce que la Turquie a vraiment intérêt à supprimer ces écoles donc très présentes en Afrique qui bénéficient d'une réputation d'excellence ? Est-ce que vraiment Erdogan peut se passer de ce relais d'influence sur le continent ?
Alors, donc le coup d'État a eu lieu en 2016, hein, c'était le 15 juillet 2016.
Oui, pardon, ma langue a fourché.
Mais vous avez raison, en tout cas les tensions sont apparues à partir de fin 2013. Donc c'est vraiment à partir de 2014 que déjà il y avait une crise politique, hein, entre Mouvement Gulen et le gouvernement turc. Mais c'est vrai que donc il y avait déjà une pression, hein, auprès des États africains pour fermer ses écoles, etc. Mais elle a vraiment passé un niveau supérieur au lendemain du coup d'État avorté du 15 juillet 2016, où là, vraiment, il y a eu une offensive très puissante, où le message était de dire qu'en fait, ces écoles étaient le terreau d'un terrorisme futur dans les pays africains, c'est-à-dire ils essaient de plaquer en fait ce qui s'était passé en Turquie dans les pays en disant en fait on est en train de faire du lavage de cerveau de vos élites qui ensuite vont essayer de renverser votre gouvernement, faites attention. Et donc là, ce qui s'est passé, c'était pas donc la requête, elle est pas tellement elle est dans un premier temps celle de faire fermer les écoles, hein, donc il y a une pression de la diplomatie turque pour que les écoles soient fermées, mais surtout qu'elles soient en fait ensuite réouvertes sous l'égide d'une fondation, la fondation Maarif, qui est une fondation qui signifie éducation en turc ottoman, qui est fondation semi-publique fondée par le gouvernement AKP, placée sous l'autorité d'Erdogan, qui doit reprendre ses écoles au nom de l'État turc cette fois-ci, hein, et du coup, hein, l'idée c'est de faire perdurer, hein, le rayonnement de la Turquie par-delà les frontières et par-delà cette crise qui a divisé cet acteur religieux et l'acteur politique.
Oui, donc l'idée, c'est quand même bien de ne pas se passer de ces relais sur le continent africain. Les écoles Gulen, elles prenaient un enseignement, même si c'est une confrérie musulmane, elles prenaient un enseignement quand même relativement laïque. Est-ce que la reprise en main par l'État turc peut avoir un impact sur le contenu de l'enseignement? Est-ce qu'on peut s'attendre à des orientations politiques, religieuses, en tout cas une vision du monde et des valeurs différentes qui seront enseignées?
Alors, je sais pas encore, pour être honnête, parce que les écoles sont reprises depuis à peu près une année ou deux, donc j'ai pas encore vu ces écoles-là.
En tout cas, c'est un enjeu, peut-être.
Oh, oui. Alors, les écoles Gulen, c'était en effet des écoles non confessionnelles, mais dans lesquelles, quand même, déjà, il y avait quand même un fort élément de fierté turque, des cours de langue turque étaient fournis. Il y avait, voilà, toute une mythologie de la Turquie qui était quand même déjà véhiculée, parce que simplement par une incroissance intellectuelle des fidèles du mouvement Gulen qui sont eux-mêmes assez nationalistes. Donc sur le changement idéologique, je suis pas tout à fait sûr. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y aurait un changement en termes de qualité de l'enseignement sur le contenu, c'est-à-dire qu'en fait là le gouvernement turc doit envoyer à tout prix des milliers d'enseignants dans le monde entier du jour au lendemain dans des écoles des gens pas formés du tout, etc. Et donc on a des enseignants beaucoup moins formés que ceux qui étaient dans le mouvement Gulen, des écoles reprises en main et réouvertes une semaine après. Et donc là, par contre, ce qui est évident, c'est que la qualité de l'enseignement décroît de manière importante. Et du coup, ce qu'on peut imaginer, par contre, c'est le fait que, ce qui est déjà notable, notamment au Sénégal et dans d'autres pays où les écoles ont été reprises, les enfants d'élite africaine qui étaient scolarisés dans ces écoles vont plutôt dans d'autres écoles parce que là le prestige décroît. C'est-à-dire l'idée que ce sont des écoles d'excellence ne sont plus tenir le coup du tout.
Retour en plateau avec nos invités. Réaction à ce qu'on vient d'entendre, Niandou Touré, est-ce que la Turquie a une carte à jouer particulière sur le continent africain, notamment en jouant du fait qu'elle n'est pas une ancienne puissance coloniale? Est-ce que ça peut avoir un aspect attractif toujours à travers cette question de l'éducation?
Oui, pour le cas du Mali, que je connais un peu, la Turquie, il y a encore 3 écoles secondaires privées turques à Bamako qui jouissent encore de l'excellente réputation qu'avaient les établissements dont Erdogan a demandé la fermeture il y a quelques années. Donc, pour le moment, la Turquie apparaît comme une véritable alternative en termes d'offres de qualité et sans doute que oui, heureusement pour la Turquie, elle ne souffre d'aucun lourd passif de colonisation et donc elle a effectivement une carte à jouer encore au Mali. À la seule condition, bien évidemment, que la qualité continue d'être équivalente à celle que proposaient les établissements il y a quelques années.
Yann Lebeau, réaction sur ces questions des influences turques à travers ces écoles?
Je connais peu la question de ces écoles en particulier. Ce qui est intéressant, c'est la relation entre la présence de ces écoles et les stratégies du gouvernement turc d'attraction des étudiants internationaux et africains en particulier dans les universités turques de Turquie. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit se développer, une véritable stratégie d'internationalisation des universités turques, se présentant comme ayant les mêmes garanties de qualité que les universités européennes. Après tout, ils font partie du processus de Bologne et avec des droits de scolarité bien inférieurs souvent et des politiques d'immigration et de visa beaucoup plus souples qui permettent aux étudiants africains de se rendre sans avoir à affronter toutes les tracasseries administratives que l'Europe leur impose.
Education in Nigeria dans une interprétation des mercenaires de l'ambiance. Merci infiniment à nos invités. Merci à vous Gabriel Anger, vous étiez au téléphone à l'instant avec nous. Et merci à vous Niandou Touré, je rappelle sociologue, chercheur au CEPED. Et merci infiniment à vous Yann Lebeau d'avoir été avec nous en studio, en duplex depuis les studios de la BBC en Angleterre. Vous êtes, je rappelle, sociologue enseignant à l'université de Norwich.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Et bonjour Brice Couturier.
Bonjour Mélanie Chalandon.
Clara Ponsati est devenue une vedette en Écosse, mais qui est Clara Ponsati?
Eh bien cette Espagnole, pardon, que dis-je, cette Catalane est devenue une héroïne en Écosse. Oui, des milliers de gens se sont cotisés pour financer sa défense juridique et lui éviter l'extradition vers l'Espagne. Nicola Ferguson Sturgeon, la première ministre d'Écosse, a fait publiquement état de sa solidarité. Dans son pays natal, cet économiste, professeur à l'université St. Andrews, risquait une peine de 25 ans de prison. Pendant quelques mois, au cours de l'année 2017, elle a détenu le portefeuille de ministre de l'Éducation dans le gouvernement catalan, présidé par Carles Puigdemont. Vous vous souvenez? Le gouvernement qui a organisé le fameux référendum d'autodétermination de la Catalogne déclaré illégal par le gouvernement espagnol. Alors oui, les Écossais ont quelque chose en commun avec les Catalans. Ce sont des peuples qui ont renoncé à leur indépendance il y a plusieurs siècles pour se fondre dans un État plus large et qui aujourd'hui s'interrogent sur l'opportunité qu'il y aurait à redevenir indépendant. Dans un article publié par la New York Review of Books, l'historien Neil Acheson commente l'ouvrage d'un confrère, J.H. Eliot, qui s'est attaché à décrire une histoire parallèle de la Catalogne et de l'Écosse, Scots and Catalans, Union and Disunion. L'Espagne a été fondée en 1469 par l'union dynastique de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille. Et dans le contrat de mariage, Ferdinand apportait la Catalogne. L'héritage de la féodalité avait multiplié les petites principautés et villes libres, chacune possédant ses lois et ses droits particuliers, fruits d'une histoire compliquée. Ainsi, Barcelone, au Moyen-Âge, était gouvernée par son propre conseil des Cent. Et son allégeance au roi était tout sauf inconditionnelle. Les Cent prononçaient le fameux serment d'Aragon et de Catalogne. « Nous, qui sommes aussi bons que vous, jurons à vous qui n'êtes pas meilleurs que nous de vous accepter comme roi et souverain seigneur, sous réserve que vous vous observiez toutes nos lois et respectiez toutes nos libertés, et sinon, non. » L'Aragon entier se souleva contre la Castille en 1590 et 30 ans plus tard, le ministre du roi Philippe IV, le duc d'Olivares, entreprit de moderniser le royaume d'Espagne en abrogeant une partie des libertés locales. Eh bien, cette politique provoqua une insurrection de la Catalogne qui devait durer 12 ans. Elle fut écrasée en 1652. Lors de la guerre de succession d'Espagne, au tout début du XVIIIe siècle, les Catalans soutinrent l'archiduc Charles d'Autriche, le Habsbourg, contre Philippe V, le petit-fils de Louis XIV et le premier Bourbon à monter sur le trône d'Espagne. Alors celui-ci le leur fit payer très cher et les Catalans se souviennent encore du siège subi par Barcelone et de la chute de la capitale catalane en 1714. Vu de Madrid, les Catalans furent dès lors perçus comme dangereux, n'hésitant pas à chercher des alliés hors d'Espagne pour favoriser leurs intérêts, et en particulier du côté français. En 1909, nouveau soulèvement de Barcelone pour protester cette fois contre la conscription. C'est la fameuse semaine tragique. Madrid impose la loi martiale et les leaders catalans sont exécutés. Lors de la guerre d'Espagne, Barcelone, on s'en souvient, est l'une des toutes dernières villes à tomber en janvier 1939. Luis Companys, le président de la Généralité de Catalogne, qui était réfugié en France et qui a été livré à Franco par la Gestapo, lance au peloton d'exécution qui s'apprête à le fusiller pour la Catalogne.
Ouais, du côté du Royaume-Uni, Brice, l'union entre l'Écosse et l'Angleterre paraît quand même plus solide.
Eh oui, cette union eut lieu en 1603 lorsque Jacques Stuart, roi d'Écosse sous le titre de Jacques VI, devint également roi d'Angleterre et d'Irlande en tant que Jacques Ier. Et le traité d'union entre l'Angleterre et l'Écosse fut signé 100 ans plus tard, en 1707. Pas de nationalisme écossais avant le XXe siècle. Les frictions entre les deux nations concernèrent plutôt les affaires religieuses. Ce n'est qu'en 1928 qu'émergea un parti national écossais revendiquant l'indépendance. À partir de 1967, il commence à remporter des sièges à la Chambre des communes. En 1999, l'Écosse obtient la création de son propre parlement. Et en 2007, le parti national écossais y remporte la majorité. Mais au référendum de 2014, on s'en souvient, les indépendantistes sont battus. Le Brexit pourrait bien relancer la cause de l'indépendance parce que les Écossais, eux, veulent rester dans l'Union européenne. En Catalogne, le référendum d'autodétermination du 1er octobre 2017, suivi d'une proclamation d'indépendance du 27 octobre, n'ont pas été reconnus par le gouvernement espagnol qui a mis la Generalitat sous tutelle. Différence fondamentale entre les deux cas, rien n'interdit aux Écossais de faire sécession d'avec la Grande-Bretagne à laquelle ils ont adhéré de leur plein gré. Le jour où une majorité d'Écossais déciderait de reprendre leur indépendance, Londres ne s'y opposerait pas. Le Royaume-Uni, en effet, ne possède pas de constitution écrite, contrairement au Royaume d'Espagne, dont l'article 2 proclame l'unité indissoluble de la nation espagnole. Mais l'UE, elle, s'oppose à toute sécession unilatérale d'une province d'un de ses membres, même quand c'est par fidélité à l'Europe.
Merci beaucoup Brice Couturier. Sur ces questions épineuses de la Catalogne, je conseille à nos auditeurs de réécouter toute la semaine que nous avons fait la semaine dernière sur l'Espagne. Votre chronique, bien sûr, à retrouver et réécouter sur franceculture.fr dans un instant. Et bien, c'est la Grande Table présentée cette semaine par Raphaël Bourgois.